VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guiriec en direct de Washington, mardi 10 juillet 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. Au sommaire ce soir en Guinée, grogne sociale contre la hausse des prix de l'essence. Au Cameroun, au moins 3 policiers tués depuis dimanche en région anglophone. RDC, le principe d'une visite du secrétaire général de l'ONU est maintenu, même si elle avait été déclarée inopportune. Le président américain Donald Trump commence une tournée européenne pour un sommet de l'OTAN, puis un tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Journal de la Coupe du Monde, la France affronte la Belgique aujourd'hui en demi-finale. Pour l'instant, le score est de 1-0. Mais d'abord, les infos. En Guinée, manifestation dans les rues de Conakry pour dire non à l'augmentation de 2000 francs guinéens du prix du carburant à la pompe. Les organisations syndicales et de la société civile demandent son annulation. Zakaria Camara, correspondant de VOA Afrique à Conakry.
Ils viennent de toutes les couches socio-professionnelles du pays. Tous sont sortis pour protester contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Alpha Limou, informaticien.
À 10 000 déjà, la vie est très chère en Guinée, tout le monde le sait. Et actuellement, tous les taximètres ont augmenté le prix du transport. Ça craint déjà, il y a l'anarchie.
L'anarchie, c'est aussi les mesures d'accompagnement qui n'ont pas suivi l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Pour ce jeune leader, le peuple ne peut pas continuer à serrer la ceinture. Badra Koné.
Ce qu'on n'a pas compris qui nous a amené à cela, c'est le fait que M. le Président de la République, le premier exemple du pays, n'a pas accepté de diminuer son train de vie et le train de vie de sa suite, qui est le gouvernement, j'en passe. Le peuple ne peut pas, capable de payer le litre à 10 000 francs au jour d'aujourd'hui.
Ils étaient plusieurs milliers de Guinéens à marcher à Conakry à l'appel de Debout Citoyen, un mouvement des organisations de la société civile guinéenne. Le gouvernement guinéen, lui, a dit qu'il ne peut plus continuer à subventionner le carburant. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé un nouveau gouvernement avant la présidentielle de 2020. Gouvernement largement dominé par sa formation politique et ouvert aux personnalités favorables à son projet de grand parti unifié. Le président a donc reconduit les barons du RDR, Amadou Gond Coulibaly comme premier ministre, Ahmed Bakayoko à la défense, Marcel Amontano aux affaires étrangères et Kandia Camara à l'éducation nationale. Au Sénégal, les avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall, et l'ancien ministre Karim Wade accusent le pouvoir d'utiliser la justice pour les éliminer de la course à l'élection présidentielle de 2019. Ces deux opposants sont condamnés pour corruption. Le pouvoir du président Macky Sall se défend de toute implication dans les poursuites les visant. Nigeria, le parti au pouvoir, APC, assure qu'il restera soudé derrière le président Muhammadu Buhari alors que la présidentielle est prévue pour février 2019. Pourtant, la semaine dernière, des parlementaires de la mouvance présidentielle ont annoncé la création d'une formation dissidente dénonçant la catastrophe monumentale qu'a été, selon eux, la présidence Buhari depuis 2015. La situation reste tendue dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun. 3 policiers ont été tués depuis dimanche par des présumés séparatistes armés. Abdourahmane Dia.
Pour la première fois, des affrontements opposent depuis hier des séparatistes aux forces de sécurité à Boya, capitale du sud-ouest. Ces affrontements ont contraint la majeure partie des habitants à rester cloîtrés chez eux. 2 policiers ont été tués hier dans la zone sud de la capitale par des terroristes, a déclaré un responsable de Boya. Un autre policier a été enlevé et on est sans nouvelles de lui, a-t-il ajouté. Et dimanche à Kumba, une localité située entre Boya et Mamfé, un commissaire de police avait été froidement abattu près de chez lui. Des tirs ont de nouveau été entendus dans la matinée de ce mardi à Boya, une ville de 100 000 habitants, quadrillée par un grand nombre de militaires camerounais depuis le début de la crise anglophone fin 2016. En s'attaquant à Boya, les séparatistes tentent de s'emparer de cette ancienne capitale d'un État anglophone qui avait vu le jour sous mandat britannique entre 1922 et 1961.
En République démocratique du Congo, le principe d'une visite du secrétaire général de l'ONU et du président de la Commission de l'Union africaine est maintenu, d'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères congolaise. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
D'après le communiqué du ministère des Affaires étrangères, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, et Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, sont les bienvenus à Kinshasa à une date à convenue de commun accord. Le communiqué de la direction du protocole d'État a ajouté que des consultations sont en cours pour harmoniser les agendas. Dimanche, Kikaya Bin Karumbi, conseiller diplomatique du président Joseph Kabila, avait indiqué que cette visite était inopportune pendant cette période préélectorale. Fin mai, Leila Zerougui, la chef de la MONUSCO, a annoncé cette visite disant qu'elle devrait avoir lieu ce mois-ci, en juillet. Le Conseil de sécurité a renouvelé en mars pour un an le mandat de la MONUSCO avec pour priorité la protection des civils et l'appui aux élections prévues le 23 décembre. Fin janvier, le président Joseph Kabila a critiqué la MONUSCO demandant qu'elle quitte le pays au plus tard en 2020. La mission onusienne en RDC compte quelque 17 000 casques bleus pour un budget annuel d'environ 1,150 milliards de dollars.
Au Mozambique, 4 personnes ont été décapitées samedi lors d'une attaque imputée au groupe islamiste qui sème la terreur depuis plusieurs mois dans le nord du pays. C'est ce que rapporte l'AFP citant des témoins. La police a refusé à confirmer les faits. L'ONU dénonce de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui met principalement en cause les forces gouvernementales, estime que les exactions peuvent s'apparenter à des crimes de guerre. Selon les investigations conduites sur un mois par l'ONU, au moins 232 civils ont été tués dans des attaques menées par les forces gouvernementales. Nous reviendrons sur le Soudan du Sud en seconde partie d'émission. Un avion s'est écrasé au décollage près de la capitale sud-africaine Pretoria. Une personne a été tuée et une vingtaine d'autres blessées.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a estimé ce mardi que sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine à Helsinki pourrait être plus facile que le sommet de l'OTAN à Bruxelles ou même sa visite au Royaume-Uni au moment où il embarquait pour une tournée européenne de plus d'une semaine. Jacques Aristide.
Le président Trump, qui voyage accompagné de son épouse Melania, doit dans un premier temps se rendre en Belgique pour assister au sommet de l'OTAN mercredi et jeudi à Bruxelles, un sommet qui s'annonce tendu. Monsieur Trump reproche à ses alliés de l'OTAN de ne pas augmenter suffisamment leurs dépenses militaires, un message qu'il a encore martelé ce mardi matin. Nous avons beaucoup d'alliés, on ne peut pas abuser de nous, l'Union européenne ne peut pas abuser de nous. Nous avons perdu 151 milliards de dollars dans le commerce avec l'Union européenne l'année dernière. Et en plus de ça, nous dépensons au moins 70% pour l'OTAN et franchement, ça les aide plus que nous, a-t-il déclaré. Je pense que le fait de bien s'entendre avec la Russie, de bien s'entendre avec la Chine, de bien s'entendre avec les autres est une bonne chose, a-t-il ajouté. Chère Amérique, considérez mieux vos alliés. Après tout, vous n'en avez pas tant que ça, a pour sa part lancé le président du Conseil européen, Donald Tusk.
Conflit en Syrie. Au moins 27 combattants des forces pro-régime ont été tués dans le nord-ouest du pays par une attaque nocturne menée par des factions rebelles. C'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. En représailles, le régime de Bachar al-Assad et son allié russe ont mené des raids aériens et des tirs d'artillerie contre les territoires rebelles de la province d'Idleb, tuant 4 civils, toujours selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le gouvernement socialiste espagnol va proposer une réforme du code pénal pour introduire la notion de consentement sexuel explicite. Si une femme ne dit pas oui explicitement, tout le reste est non. C'est ainsi que seront préservées son autonomie, sa liberté, le respect à sa personne et sa sexualité. C'est ce qu'a déclaré la ministre de l'Égalité devant une commission parlementaire. Cette loi considère comme viol tout acte sexuel sans accord explicite, même en l'absence de menace ou de violence. Et enfin, c'est un ouf de soulagement en Thaïlande. Après 2 semaines piégées dans une grotte inondée, les 12 jeunes footballeurs thaïlandais et leur entraîneur sont tous sortis sains et saufs au terme d'une périlleuse opération de secours. Les enfants étant évacués chacun par 2 plongeurs professionnels sur un parcours très difficile, supposant 2 longs passages de plongée. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur l'actualité économique en Afrique. C'est la Minute Éco présentée aujourd'hui par Raïssa Girondin.
En Côte d'Ivoire, plus de 1800 milliards de francs CFA d'investissement privé ont été obtenus entre 2015 et 2017, selon le directeur général du CPC, le guichet unique de l'investissement dans le pays. Emmanuel Esmelessi a ajouté que plus de 111 000 emplois ont été générés sur la même période. L'Union européenne alloue 90,5 millions d'euros à des programmes de gestion des flux migratoires africains. Selon la Commission européenne, les trois nouveaux programmes concernés en Afrique du Nord renforceront la gestion des frontières et protégeront les réfugiés et les migrants contre les trafiquants. La Banque mondiale fait un don de 35 millions de dollars au Tchad. Ce fonds va appuyer les efforts d'amélioration de la mobilisation des recettes intérieures, fiscales et douanières, renforcer les capacités institutionnelles des ministères en charge des finances et du budget, du pétrole et de l'énergie, et des télécommunications et nouvelles technologies de l'information. La Chine promet 20 milliards de dollars de prêts et 124 millions de dollars d'aide financière à plusieurs pays du Moyen-Orient, dont la Syrie et le Liban. Le président Xi Jinping affirme que le but est de relancer la croissance économique de la région. Beijing s'investit au Moyen-Orient avec, notamment pour objectif, son projet de nouvelle route de la soie qui vise à relier la Chine à l'Europe via un réseau de routes, voies ferrées, ports, sites énergétiques et qui passera par le Liban.
Le journal de la Coupe du Monde, à mes côtés en studio, Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
La première demi-finale de la Coupe du Monde à Saint-Pétersbourg.
Et il reste presque 7 minutes de jeu en comptant les arrêts de jeu. 1-0 pour le moment pour l'équipe de France. Un but de la tête en seconde période inscrit par Samuel Umtiti sur coup de pied arrêté. Il reste quelques minutes de jeu et les Belges qui poussent pour assurer l'égalisation qui donnerait suite à des prolongations. Mais pour le moment, 85 minutes de jeu et c'est la France qui se qualifie pour la finale. La deuxième demi-finale, elle aura lieu demain. Elle verra l'affrontement entre l'Angleterre et la Croatie. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Bonjour. La seconde demi-finale de cette Coupe du Monde, l'Angleterre et la Croatie s'affrontent mercredi à Moscou dans un choc de revenants indécis. Championne du monde chez elle en 1966, l'Angleterre avait dû attendre 24 ans pour retrouver une demi-finale de l'épreuve. Après sa victoire miraculeuse obtenue face au Cameroun de Roger Milla, 28 ans plus tard, revoici les Britanniques aux portes de la finale, avec des atouts indiscutables et une adversité moins évidente. On ne cesse de le répéter, l'équipe anglaise est jeune, surtout qu'elle a pu basculer dans la partie du tableau où les adversaires proposés arboraient plutôt un profil de sparring partner. L'effectif anglais est frais et son collectif s'est bonifié sans puiser dans ses réserves. En face se trouve une Croatie au talent individuel et collectif indiscutable, digne héritière de l'école yougoslave, un football capable de briller aussi bien dans le jeu technique au sol que dans les rudes batailles aériennes, avec de surcroît une grande efficacité devant les buts. Mais la Croatie qui a joué deux prolongations difficiles contre le Danemark puis la Russie, pourra-t-elle récupérer physiquement? Réponse mercredi soir.
En football, tremblement de terre, Ronaldo quitte le Real Madrid.
Eh oui, à 33 ans, 5 ballons d'or, voici un troisième grand championnat européen, Cristiano Ronaldo, qui quitte le Real Madrid pour la Juventus Turin. Le transfert de l'international portugais est estimé à 105 millions d'euros. Tenez-vous bien, Morgane, il gagnerait par saison 30 millions d'euros, ça fait rêver. Hein.
Ah oui, ça fait rêver, j'imagine tout ce que je pourrais faire avec ça.
Voilà, et on rappelle que le score, 86e minute de jeu, pour le moment la France qui mène toujours 1-0 face à la Belgique en demi-finale. Si on en reste là, c'est la France qui se qualifierait pour la finale de cette Coupe du Monde 2018.
On retient notre souffle. Merci Nicolas Pineau pour le journal de la Coupe du Monde.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. La grande ville de Boya, en région anglophone du Cameroun, est sous tension depuis hier avec des affrontements entre séparatistes présumés et forces de sécurité. Trois policiers ont été tués en zone anglophone depuis le week-end. Pour analyse, Abdourahmane Dia joint à Yaoundé le docteur Hilaire Kamga. Il lui a d'abord demandé s'il était surpris que ces violences s'étendent à une grande ville comme Boya.
Il n'y a pas de surprise qui tienne, dans la mesure où on a vu l'évolution de la situation sur le terrain et on a vu la radicalisation des positions, notamment Yaoundé qui ne voulait pas entendre parler du dialogue qui était réclamé par la partie anglophone. Et au fur et à mesure, on est parti des glissements des thèses, c'est-à-dire celle de bonne gouvernance vers fédéralisme et ensuite séparatisme, et ensuite la militarisation. Donc face à une violence active, on a eu en réponse une violence réactive qui engendre un cycle de violence, d'abord dans les villages et aujourd'hui dans les grandes villes. Ça ne nous paraît pas surprenant.
Qu'est-ce que cela peut signifier quand on voit les séparatistes s'attaquer à une grande ville comme Boya? Est-ce que cela traduit une certaine audacité de ces groupes armés quand même?
Non seulement cela traduit une certaine audacité, comme vous le dites, mais surtout ça a une valeur symbolique. Il s'agit, me semble-t-il, de prouver à l'opinion nationale et internationale que Yaoundé n'a plus la main en matière de contrôle de ces régions. Jusque-là, cette preuve était matérialisée par les ghost towns, c'est-à-dire les villes mortes qui étaient décryptées, qui étaient observées tous les lundis. Maintenant, c'est une attaque, des attaques armées dans la ville. Il me semble que c'est le dernier cran pour montrer effectivement que le glissement vers la guerre civile est en train d'être une réalité si rien n'est fait.
Et justement, ces nouvelles violences interviennent alors que le président Paul Biya vient d'annoncer la date des élections au 7 octobre. Ce sera quand même un des grands sujets lors des débats de la campagne présidentielle.
Il est évident que en annonçant la date des élections pour le 7 octobre, M. Biya a respecté ainsi l'obligation qui lui est faite par le code électoral et par la constitution du Cameroun. Mais en même temps, il place le pays dans une situation assez particulière où on a des régions qui sont pratiquement en quasi-guerre et dans lesquelles on a la prétention de pouvoir organiser des élections qui voudraient porter la qualité d'élections transparentes. Donc du coup, il y a là un dilemme, une problématique.
Est-ce que vous pensez que ces élections peuvent justement être organisées dans ces deux régions, vu le contexte?
D'abord, il faut peut-être préciser que, de ma qualité d'expert électoral, moi, c'est ce en quoi je peux parler avec assurance, il ne sera pas possible de parler d'élections démocratiques dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest si au rendu en octobre, on est dans la situation qu'on a aujourd'hui. Puisque, à la réalité, les séparatistes ont dit qu'ils ne veulent pas d'élections dans leur région. Et on sait que, quand ils décrètent, ça marche généralement. Ça marche peut-être par adhésion ou par peur, mais dans tous les cas, ça marche. La preuve en est que tous les lundis, il y a la ville morte et personne ne sort, tous les boutiques sont fermés.
Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme pour la démocratie au Cameroun.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur l'accord historique entre l'Éthiopie et l'Érythrée pour mettre un terme à deux décennies d'état de guerre qui avaient déchiré les deux pays frères. Quelles sont les réactions à cet accord de paix? Le processus ira-t-il jusqu'au bout? Que représentent pour l'Éthiopie les réformes que multiplie le Premier ministre Abiy Ahmed? A-t-il le soutien de toutes les couches de la population éthiopienne? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Ne manquez pas Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h30.
Controverse au Nigeria, suite à la décision du gouvernement de distribuer plus de 300 millions de dollars aux familles pauvres dans le pays. Il s'agit de l'argent détourné par l'ex-président Sani Abacha pendant les années 90. Les fonds étaient récemment restitués par les autorités suisses. Une correspondance de Gilbert Tamba, qui travaille pour VOA Afrique à Abuja.
L'argent doit être versé à environ 300 000 ménages, un versement mensuel d'environ 14 dollars chacun. Cependant, les Nigériens se demandent si c'était la meilleure façon de distribuer l'argent et se posent des questions sur les critères du gouvernement pour identifier les foyers dits pauvres au Nigeria, alors que 70% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Stephia Omoezi est comptable dans une ONG locale impliquée dans le développement communautaire.
C'est une bonne chose, mais j'ai un problème. Comment ils identifient un certain nombre de personnes comme pauvres? Est-ce qu'ils vont publier la liste des pauvres pour que nous puissions faire nous-mêmes des recherches indépendantes sur eux? Nous voulons tous ces détails pour se rassurer que ces fonds seront effectivement remis aux pauvres du Nigeria.
Certains veulent que ces fonds soient investis dans les projets de développement en faveur de ces pauvres communautés. C'est le cas de Chambers Umezulike, chargé des programmes à Code, qui vient de rentrer d'une tournée dans les communautés rurales.
Tout d'abord, nous avons sillonné les communautés et cela nous a permis de voir l'état critique des infrastructures dans ces communautés, de la santé à l'éducation et de l'approvisionnement en eau potable. Et plus que ça, donc les communautés ont vraiment besoin de ces services sociaux. La pauvreté domine également dans les zones rurales.
La décision du gouvernement de distribuer l'argent aux ménages dits pauvres ne passe pas aussi facilement chez beaucoup d'autres Nigérians à quelques mois des élections générales et présidentielles de 2019. Ils craignent que le don d'argent puisse être vu comme un effort pour obtenir des votes. Témoignage dans les rues d'Abuja au micro de VOA Afrique.
Because election is a few months to come.
Parce que nous sommes à quelques mois des élections et c'est maintenant que vous devez décider de distribuer les fonds détournés par Abacha aux communautés. Pourquoi vous voulez distribuer cet argent à certaines communautés? Pourquoi vous ne faites pas de programme de développement durable ou de la formation des jeunes? Donc, je pense que c'est une motivation politique.
À mon avis, ce n'est pas une bonne décision. Pendant la période électorale, ce n'est pas un fait nouveau. Et ça ne fait pas de débat aussi de voir nos leaders en train de prendre certaines initiatives en distribuant de l'argent et autre chose aux gens.
Le Parlement nigérian, suite à un débat autour de la question, est resté divisé et a rejeté l'initiative du gouvernement, évoquant des inquiétudes de transparence dans le processus. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Soudan du Sud, les rebelles ont rejeté un plan de paix conclu à Entebbe en Ouganda pour rétablir Riek Machar dans ses fonctions de vice-président. L'accord était censé mettre fin à la guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts depuis 2013. Plusieurs accords ont déjà été conclus entre les belligérants mais n'ont jamais été respectés. Est-ce à dire que la paix est impossible dans la plus jeune nation du continent? Idriss Fall a joint à Paris Roland Marchal, directeur de recherche au CNRS.
La paix est possible. C'est d'abord une certaine convergence régionale qui n'avait pas existé auparavant. Béchir, président soudanais, travaillant avec le président ougandais. Les Éthiopiens ayant donné tacitement leur accord. Les Kenyans étant également d'accord avec la démarche suivie. Donc on est quand même dans une situation qui est un peu nouvelle, qui peut, malgré les désaccords exprimés, souligne que la région, au moins, elle progresse dans sa volonté de paix. Il y a évidemment encore les problèmes, parce que c'est vrai que cet accord peut paraître pour beaucoup de choses un copier de l'accord de 2015 avec des conditions d'application qu'on peut trouver insuffisantes. Riek Machar n'est plus le même homme. Il a échappé à la mort en 2015. Il voit aussi qu'il a été en résidence surveillée de fait plus que de droit en Afrique du Sud. Les choses évoluent lentement et disons ce qui est en train de se passer dans la région peut avoir un impact sur le Sud-Soudan. Maintenant, il ne faut pas se cacher la réalité. C'est-à-dire que c'est des groupes qui ont aussi acquis certains privilèges dans la guerre et qui, évidemment, voudrait bien les voir se renouveler dans un éventuel accord de paix. La route est sans doute encore longue, mais je crois qu'elle reste ouverte.
On a l'impression de faire du surplace parce qu'en 2015, Riek Machar devait devenir vice-président basé à Djouba. Cette fois-ci aussi, c'est le même scénario. Et même s'il revenait à Djouba, quelles sont les garanties qu'ils ne vont pas à nouveau se taper dessus?
Mais vous avez une région d'abord qui converge, alors qu'à l'époque, en 2015, chacun essayait de jouer sa carte hein, contre les autres. Ensuite, vous avez une Éthiopie changée qui veut imprimer une dynamique de paix régionale. Alors, Salva Kiir se rend compte qu'il a épuisé son capital de sympathie dans les capitales occidentales. Je pense qu'ils ont compris qu'ils étaient dans un cul-de-sac. Ces discussions et cet effort, d'ailleurs, où les États-Unis ont joué un certain rôle, laissent augurer un cheminement un peu différent. Pas que ça va être une réussite, mais il faut laisser à la paix une chance, à l'inverse de la formule qui voudrait qu'on laisse à la guerre une chance.
Est-ce que ça va effacer la suspicion entre les Nuer et les Dinka?
On a tendance à mettre un poids assez unilatéral sur l'ethnicité et pas regarder les vrais enjeux pouvoir qu'il y a derrière, hein, qui sont là proprement politiques. Donc je ne crois pas qu'on va faire du Sud-Soudan, ni aujourd'hui ni demain, une société. Les gens se feront confiance, s'aimeront les uns les autres comme ça n'existe nulle part ailleurs. L'idée qu'il faut vivre ensemble, c'était quand même la base de leur indépendance et l'existence de leur pays suppose quand même que ces populations acceptent de faire partie, d'avoir un commun dénominateur, d'appartenir au Sud-Soudan.
Le 11 juillet, c'est l'anniversaire de l'indépendance du Sud-Soudan.
Et il n'a pas été fêté, puisque le Sud-Soudan est quasiment un pays ruiné, au-delà de la division mortifère entre ces populations.
Voilà, c'était Roland Marchal, directeur de recherche au CNRS à Paris. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Sims Loumami, à la présentation, Morgane Guériec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Je précise au passage que la France a gagné son match 1-0. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le président Joseph Kabila de la République démocratique du Congo a exercé les deux mandats permis par la Constitution. C'est maintenant au tour de quelqu'un d'autre de briguer la présidence. Une crise a éclaté quand Kabila n'a pas organisé les élections à temps et n'a pas démissionné. À la suite des négociations, le parti au pouvoir et la coalition de l'opposition ont signé l'accord de la Saint-Sylvestre. Le président s'est engagé à ne pas briguer un troisième mandat ou modifier la Constitution. Il devait demeurer à son poste jusqu'à l'investiture de son successeur après les élections qui devaient se tenir à la fin de décembre 2017. Mais il n'y a pas eu d'élection l'année dernière en RDC et il n'y en aura pas avant décembre 2018. Et maintenant, le parti du président Kabila parle de modifier la Constitution afin qu'il puisse briguer un autre mandat. Le refus du président de démissionner, les machinations politiques ayant retardé les élections à diverses reprises, ont causé une crise politique, accentué l'insécurité et provoqué une série de manifestations de rue au cours desquelles de nombreuses personnes ont été tuées. Le 31 décembre, le comité laïque de coordination a organisé des manifestations pacifiques contre lesquelles les forces de sécurité ont fait usage d'une force excessive contre des manifestants sans armes. Une autre a été programmée pour le 21 janvier. Les autorités s'y sont préparées en coupant l'Internet et le service SMS, de même qu'ils ont interdit des rassemblements de plus de 5 personnes. Lorsque les manifestations pacifiques ont tout de même eu lieu, les policiers ont fait usage des gaz lacrymogènes et tiré à balles réelles dans la foule, tuant au moins 7 personnes, blessant et arrêtant des centaines d'autres. Nous condamnons dans les termes les plus fermes la violence perpétrée par les forces de sécurité de la RDC le 21 janvier contre les manifestations pacifiques menées par l'Église, a fait savoir le porte-parole du département d'État Heather Nauert dans une déclaration écrite. Nous sommes consternés que le gouvernement de la RDC, y compris le président Kabila, ait employé des tactiques répressives et usé de manière disproportionnée de la force létale contre les civils, y compris des leaders religieux et des enfants qui exerçaient leur droit démocratique pour demander des élections crédibles et inclusives, a-t-elle ajouté. Le recours à la force létale contre des citoyens congolais et le blocage de l'Internet et des SMS sapent le processus démocratique, entravent la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre et contreviennent aux normes internationales en matière des droits humains. Nous appelons au président Kabila de tenir responsables les membres des forces de sécurité ayant tiré sur les civils ou ordonné l'usage de la force létale et nous l'exhortons ainsi que son gouvernement d'assurer qu'un processus électoral paisible et ouvert soit mis en œuvre afin que des élections crédibles se tiennent comme prévu en décembre 2018.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.